En ce début du mois d'avril, nous sommes au cœur d'une actualité bien chargée. Et aujourd'hui, Caroline nous l'a rappelé, nous sommes le dimanche des rameaux, avec cette entrée de Jésus à Jérusalem sur le dos d'un ânon, une période qui va rapidement nous amener la semaine prochaine à la Pâque, cet événement, on le sait, tellement important qui nous concerne tous. Mais ce mois d'avril concentre aussi une autre actualité. Un autre événement qui nous concerne également tous. Cet événement, c'est que dans 15 jours, nous irons voter pour notre futur président de la République. Et cela aussi, malgré tout, ça a une certaine importance. Ne serait-ce qu'à cause des implications que ça va engendrer. Vous voyez, le mois d'avril, un mois spirituellement fort, mais aussi un mois à forte résonance politique. Et déjà même, d'ailleurs, pour faire la transition, l'arrivée de Jésus à Jérusalem, juste avant la Pâque, avait finalement une certaine connotation politique. Car c'est un Messie politique qu'attendait le peuple, celui qui allait le délivrer de l'envahisseur. Mais on l'a vu, c'est un Messie monté à dos d'ânon qui va arriver. Un Messie qui ne correspondra pas aux attentes de l'époque, mais qui proposera autre chose. Et cette incompréhension, entre autres, sera une des raisons de son rejet. Alors ce matin, après avoir parlé des rameaux en introduction, je voudrais maintenant vous inviter à parler de politique. Ou plus précisément, au vu des échéances électorales qui se rapprochent, je voudrais vous inviter à parler de la question du vote, et plus exactement, du chrétien face à son vote. Il n'y a pas de vote chrétien, sans aucun doute, mais y a-t-il malgré tout une manière chrétienne de voter? Ou au moins, y a-t-il quelques pistes de réflexion à dégager avant de rejoindre les urnes dans 2 semaines? Et alors oui, je vous le dis tout de suite, j'ai conscience que je m'engage ici sur une pente un petit peu glissante. Je mesure le risque qu'il y a à parler de politique à l'Église. Il paraît que les deux sujets qui fâchent le plus sont la religion et la politique. Et là, on va maintenant un petit peu les mélanger. Et le pire dans tout ça, je dois bien vous l'avouer, c'est que je n'y connais pas grand-chose en politique. C'est même pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Et je n'ai d'ailleurs pas de conviction bien arrêtée là-dessus. Et pour l'anecdote qui me fait assez sourire, si je jette un rapide regard en arrière sur les différents votes auxquels j'ai participé depuis ma majorité, eh bien je me rends compte que j'ai parfois voté à droite, parfois à gauche, parfois au centre. Et j'en dis pas plus, hein, pour pas dévoiler trop de secrets. Non, je n'y connais pas grand-chose, mais par contre, j'ai été alerté par un ouvrage que j'ai reçu récemment et qui traite justement de cette question, comme étant une question pertinente pour le chrétien. Un livre avec ce titre. La politique, parlons-en, éclairage et débat en Église. Un ouvrage collectif et écrit par des auteurs compétents, bien plus experts que moi, en tout cas dans ce domaine. Louis Schweitzer, qu'on ne présente plus, Luc Oleknovitch, pasteur et président de la commission d'éthique protestante évangélique, Frédéric de Coninck, chercheur en sociologie à Paris, Thierry Le Gall, directeur du service pastoral du CNEF auprès des parlementaires, ou encore Evert Van de Poel, pasteur et professeur de sciences religieuses et de missiologie à Louvain, et bien d'autres encore. Des auteurs compétents, oui, qui ont osé aborder ce thème glissant, oui, mais aussi et surtout qui ont souhaité le faire à la lumière des Écritures, pour essayer justement d'en dégager pour nous quelques perspectives ou tout au moins, on le disait, quelques réflexions et interrogations saines qu'il nous serait peut-être bon d'avoir avant d'aller voter. Et dans cette période où on entend beaucoup de choses dans les discours, où on est un peu troublé de tout ce qui se passe sur cette scène politique, dans cette période où des questions majeures de société ou de vivre ensemble sont abordées sous de nombreux angles, eh bien, il me semblait aussi important d'écouter une voix qu'on entend moins souvent dans les médias, bien sûr, et de revenir peut-être, pour nous qui confessons notre foi chrétienne, vers des considérations et des principes plus ancré dans la révélation biblique. C'est le but de cet ouvrage. Et donc, pour ma part, ce matin, c'est ce que je veux aussi essayer de vous présenter, comme une synthèse de ce que j'ai pu lire et de ce que j'ai cru discerner d'important pour nous aujourd'hui, pour pouvoir voter en nous inspirant le plus possible de considérations bibliques. Mais je ne vous dirai pas pour qui voter, bien sûr. Hein. Je ne le sais d'ailleurs toujours pas moi-même. Mais dans cet objectif, je vous propose de développer deux axes. Dans un premier temps, parce que ça me semble essentiel de poser des bases saines, je dirai quelques mots sur l'époque que l'on vit actuellement. Une époque de toute évidence, de désespérance politique. Et sur les dangers que ça peut entraîner dans nos intentions de vote. Et puis dans une deuxième partie, et notamment à travers les textes qu'on a lus dans l'introduction, nous essaierons de voir quelques pistes prioritaires, peut-être, à retenir au moment de voter. Nous démarrons cette première partie avec Louis Schweitzer, qui fait pour nous le constat suivant. Nous sommes en période de désespérance politique. Beaucoup de nos concitoyens n'y croient plus. L'honnêteté de la classe politique est fréquemment mise en doute, sa capacité à résoudre les problèmes également. Tout ne serait qu'un jeu de dupes animé par le désir de pouvoir de quelques-uns qui se mettent en valeur et se vendent à l'opinion. Le people remplace la politique. De là, le taux d'abstention élevé ou le vote de protestation. Je ne sais pas vous, mais moi, je me reconnais plutôt bien dans ce descriptif. Et j'avoue notamment ne pas pouvoir m'empêcher de penser souvent et d'utiliser même l'expression « tous pourris ». Et les faits abondamment relayés par les médias nous confortent bien, me semble-t-il, dans ce genre de perception du monde politique. Sans doute, est-ce une réaction saine ou normale ? Mais le problème avec ce type de pensée, quel que soit leur degré de véracité ou de généralité d'ailleurs, le problème, comme nous le fait remarquer Louis Schweitzer, c'est qu'elles nous font glisser, petit à petit, vers deux attitudes. Deux attitudes qui se complètent mutuellement et dangereusement pour laisser en fait, de plus en plus, la porte ouverte à des voies inquiétantes. Parce qu'on n'y croit plus, on est tenté par ces deux attitudes et on les sent bien venir en ce moment. C'est l'abstention et c'est le vote de protestation. Et l'histoire, ou tout simplement le monde aujourd'hui autour de nous, nous montre qu'elles aboutissent effectivement à des choses inquiétantes. Mais alors que dire ? Que dire pour répondre à ceux, et peut-être nous-mêmes, qui voudraient s'abstenir, ou encore qui voudraient protester par leur vote ? Que vous dire d'abord, si vous voulez vous abstenir, parce que de toute façon ce sont tous les mêmes, ils ne valent pas mieux les uns que les autres, alors ça ne sert à rien d'aller voter ? Parfois, moi, je pense ça. Eh bien, peut-être deux choses. Je pourrais me dire et je pourrais vous dire deux choses à ce sujet. D'abord, sans doute, que le fameux « tous pourris » n'est, si on réfléchit bien, finalement juste qu'une triste constatation du péché et de l'ambiguïté de l'être humain. Et particulièrement, sans doute, de l'être humain en position dominante. Mais on le sait, rien de nouveau sous le soleil à ce sujet. On dit souvent « grand pouvoir, grande responsabilité », mais on pourrait sans doute également dire « grand pouvoir, grande tentation d'en abuser ». C'est une triste réalité de tout temps et de tout lieu. Mais sans doute sur ce point, à une échelle moindre probablement, mais sans doute pourrions-nous d'abord jeter le premier regard sur nous-mêmes. Vous savez, c'est toujours une question de paille et de poutre. Hein. Et qui sait, peut-être abusons-nous, nous aussi, parfois de nos petits pouvoirs ou de nos petits passe-droits. Alors bien sûr, je ne dis pas que c'est la même chose que de créer par exemple une immense fraude fiscale quand on est ministre du budget, que d'avoir seulement, entre guillemets, fait faire un petit travail au noir. Non, il y a évidemment des degrés de gravité dans les abus. Des paliers que certaines consciences plus saines ne franchiront certainement pas, et heureusement. Mais il n'en reste pas moins, en toute objectivité, et il nous faut le reconnaître, que l'un comme l'autre demeure des abus, des péchés tout simplement, et que le péché nous concerne tous. Sans doute, en fait, devrions-nous adapter et prendre pour nous cette citation de Solzhenitsyn et dire, je l'adapte donc un petit peu, « La ligne de démarcation du péché n'est pas entre le peuple et ses dirigeants, mais bien dans le cœur de chaque être humain. » Et alors, vous l'aurez compris, ce n'est pas pour dédouaner nos dirigeants que je dis ça. Ce n'est pas pour amoindrir leurs responsabilités, loin de là. Leurs écarts me révoltent et j'aimerais tellement, comme vous, que nos politiques soient plus exemplaires, qu'ils s'appliquent à eux-mêmes les règles qu'ils demandent aux autres. Mais de façon générale, je veux juste faire un constat. Un constat de la réalité de cette nature pécheresse et égoïste de l'homme, une réalité malheureusement qui est et qui va perdurer, même si on peut toujours espérer du mieux. Mais une réalité qui, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, je le pense, ne devrait pas être un prétexte pour tout rejeter et nous désintéresser des enjeux politiques. Parce que de toute façon, ils auront un impact sur nous, qu'on vote ou pas. Alors autant essayer d'exprimer le meilleur avis. Et la deuxième chose que je nous dirai pour nous garder de l'abstention ira aussi un petit peu dans ce même sens, ce sens de ne pas avoir d'attente trop idéalisée des politiciens ou de la politique. Parce que parfois, nous, les chrétiens, puisque nous défendons les valeurs absolues du royaume des cieux, on a du mal avec cet univers-là, qui est, on le sait, le règne du compromis, voire de la compromission. Et alors, on a vite fait de se placer au-dessus et de regarder de haut toute cette agitation politique. Mais si nous faisons cela, nous oublions tout simplement, en fait, qu'ici, nous ne sommes pas encore au ciel, mais bien sur la terre, et que nous ne sommes pas encore appelés à voter pour le royaume, mais toujours pour un bien relatif, parfois même souvent pour un moindre mal. Telle est la réalité de notre monde. Mais pour autant, ce bien relatif et ce moindre mal ne sont pas sans importance, et encore une fois, ils vont influer sur le monde. Nous devons donc les rechercher, même au milieu de compromis inévitables. Nous sommes invités à faire l'effort de chercher là où se trouve le plus le bien commun de la ville et de la nation. Et c'est pour cela que la démocratie telle que nous la connaissons aujourd'hui, même imparfaite, même très imparfaite, n'en demeure pas moins la moins mauvaise situation qui puisse exister pour nous donner à nous la possibilité de rechercher du mieux qu'on peut ce bien commun. Et s'il nous faut rester critiques à l'égard de nos gouvernants, s'il nous faut continuer à les interpeller sur leurs devoirs quand ils s'éloignent de ce bien commun, il ne faudrait pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain et vouloir trop rapidement donner un coup de pied dans la fourmilière de notre démocratie sous prétexte qu'elle a de nombreux défauts. Mais pourtant, ce discours, on l'entend. Mais pourtant, ce discours de protestation prend de l'ampleur encore et encore, année après année. À mesure que les déçus du système politique, du système actuel augmentent, ce vote de protestation gonfle. Parce qu'on veut exprimer notre ras-le-bol, ou bien juste parce qu'on veut chercher quelqu'un qui fera le ménage de ces élites corrompues et trop souvent incompétentes à vraiment changer les choses. Habituellement, ce genre de discours de protestation est appelé le populisme. Et à l'heure où Marine Le Pen truste le haut des sondages, il me semble important de nous y arrêter un instant pour essayer d'en discerner ses ressorts profonds. Alors, le populisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est ce discours qui fait appel au peuple pour justement court-circuiter ses élites. Le leader populiste est celui qui affirme défendre le peuple et exclusivement le peuple face à ses dirigeants compromis. Il proteste contre ce qui est déjà en place et veut, d'une certaine manière, s'en débarrasser. En fait, le populisme, et on le voit bien par définition, avant toute chose, il est d'abord contre. Contre les élites et les grands de ce monde, on vient de le dire. Mais aussi, plus généralement et plus simplement, contre les autres, tous les autres, et particulièrement d'ailleurs tous ces étrangers au milieu de nous qui ne font pas vraiment partie de nous, de notre peuple. Et d'ailleurs, entre parenthèses, les spécialistes font bien remarquer à ce sujet que c'est justement cette dimension, disons-le, xénophobe, qui fait que le populisme de droite est toujours beaucoup plus performant que celui de gauche. Oui, le populisme est contre. Mais le populisme est également pour. Il est pour la valorisation de la nation, il est pour la solidarité, mais ciblée bien sûr avec le célèbre slogan « Nous d'abord ». Et pour défendre ce pour, il se réclame d'ailleurs souvent de notre tradition et de notre identité chrétienne même. Il est pour nos valeurs chrétiennes. Il veut les préserver, en particulier face à la montée de l'islam. Et alors, en tant que chrétien, on peut vraiment être percuté par ce genre d'arguments. Ouais, ils paraissent pertinents. Mais si on réfléchit un peu là-dessus, on peut quand même se demander de quelle identité chrétienne on est en train de parler ici. Et là encore, les spécialistes notent bien que cette préoccupation identitaire dans le populisme n'est certainement pas celle d'une conviction intime du message chrétien, on s'en doute, hein, mais bien plutôt celle d'un environnement culturel qui participe au bien-être de notre existence. À ce sujet, Marjorie Legendre nous dit « En ce sens, le populisme est plutôt une stratégie d'autodéfense individualiste. La vie sécurisée, éduquée, libérée, à laquelle les Européens ont accédé, mais qu'ils sentent menacés, ils veulent la défendre. À n'importe quel prix ? Point d'interrogation. Mais là, vous serez d'accord, ce n'est plus le même évangile. Mais c'est vrai malgré tout que la tentation du discours populiste peut quand même paraître séduisante. Quand on voit toutes les difficultés sociales, économiques et culturelles actuelles, quand on voit la difficulté du vivre ensemble, et quand on entend une personne affirmer pouvoir régler tous ces problèmes par quelques solutions radicales, par un pouvoir plus fort ou plus sécuritaire, on a envie de s'y laisser prendre. Mais, sur cette question particulièrement, nous devrions peut-être revenir aux exemples bibliques qui viennent nous mettre en garde contre cette recherche d'un pouvoir fort. Et on se rappellera notamment l'époque de Samuel et du peuple d'Israël, qui réclamait lui aussi un roi fort, capable de les gouverner dans ce monde et de marcher fermement à leur tête. Un roi capable de s'occuper des questions de sécurité nationale, une personne providentielle qui viendrait résoudre, grâce à une politique courageuse et innovante, toutes les contradictions de la société. Est-ce cela aussi notre espérance ? Le sociologue Frédéric de Coninck nous alerte devant ce risque et nous rappelle que, par définition, l'espérance chrétienne se doit de tourner le dos à ces espoirs sans cesse réactivés de personnalités providentielles. Et il nous rappelle que notre vraie paix et notre vraie sécurité ne sont et ne peuvent être qu'en Jésus-Christ. Pour terminer sur cette question, tendue et complexe, on est d'accord, du populisme, je voudrais vous parler d'une lettre qui a été écrite à ce sujet en novembre 2015 par la Commission d'éthique protestante évangélique. Lettre ouverte à nos frères et sœurs évangéliques qui votent Front National. Une lettre, et vous le devinez à son titre, hein, avec un parti pris évident, c'est sûr, sur laquelle d'ailleurs, on s'en doute, ils ont eu pas mal de retours, certains très positifs, mais d'autres très négatifs, du style « de quoi je me mêle ?». Mais à ce sujet, Louis Schweitzer, co-auteur de cette lettre, faisait remarquer qu'il était du devoir de l'Église de se prononcer aussi sur ces questions-là, comme sur toute autre question d'éthique ou de société. Et, sans faire aucun amalgame dans les situations, il rappelait quand même que les reproches faits aux églises allemandes pour leur silence face à la montée en puissance du parti nazi devaient nous apprendre à tirer les leçons du passé. Une lettre que je nous invite, en tout cas, quelles que soient nos convictions, à consulter, parce qu'elle me semble vraiment pertinente. Et même si elle est assez cash, sans aucun doute, elle n'est pas du tout écrite dans un esprit de jugement, mais vraiment dans l'optique de nous faire réfléchir ensemble pour pouvoir avancer ensemble. Et ça, ça me semble être une bonne optique. Elle se base sur le psaume 37, verset 8. Laisse la colère, nous dit Dieu. Abandonne la fureur, ce serait mal faire. Elle nous rappelle les paroles de ce célèbre pasteur noir que l'on aime souvent citer en exemple, mais qu'on a parfois plus de mal à suivre comme exemple. Martin Luther King, bien sûr. L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité, disait-il. Seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine. Seul l'amour le peut. Une lettre, en tout cas, qui nous invite vraiment à nous recentrer sur les priorités de l'Évangile et sur l'enseignement de Jésus. Je vous en cite juste un très court extrait. Vous trouverez aisément la version complète sur Internet en tapant le titre. Il ne faut pas être naïf, nous est-il dit. Un choix dicté par la colère ne peut pas porter de bons fruits. Jamais le Seigneur ne nous a appelés au repli sur soi craintif, ni à la haine de l'autre. Il nous a appelés à la foi qui surmonte la crainte, à l'amour qui surmonte la haine. Ne faites pas le choix du pire, nous disent-ils, pour que quelque chose change. Pensez à tous ceux et toutes celles qui auront à en souffrir les conséquences. Et peut-être en ferez-vous partie. Je m'arrêterai là sur ce point. Mais alors, après avoir dit cela, du coup, que faire? Une fois éliminées, entre guillemets, les possibilités de l'abstention et du vote de protestation, pouvons-nous maintenant trouver quelques pistes pour choisir le plus en accord possible avec les Écritures? Tout en sachant, je le répète, qu'on ne vote pas pour le royaume et que les compromis seront donc inévitables. Eh bien, je crois que le premier regard que nous devons avoir et vers les textes bibliques qui traitent explicitement du rapport du chrétien avec ses autorités et qui vont nous donner une première ligne directrice générale. On les a lus dans l'introduction. Il y a ce passage bien connu de la lettre de Paul aux Romains qui nous parle de la soumission aux autorités. Il y a ensuite l'exemple de Pierre et Jean qui, au contraire, désobéissent aux autorités pour pouvoir obéir à Dieu. Et enfin, il y a la célèbre citation de Jésus sur l'impôt à rendre à César. Mis en commun, il me semble que ces passages font ressortir deux vérités. Premièrement, la légitimité de l'autorité, même imparfaite. En instituant des gouvernements humains, Dieu accepte, en un sens, de déléguer son autorité à des êtres faillibles. Et puis, deuxièmement, c'est la primauté qui doit encore et toujours revenir à Dieu. Et ces réalités me semblent entraîner plusieurs conséquences pour nous. En particulier donc en ce qui concerne notre vote. Elles viennent d'abord mettre un coup d'arrêt à toute attitude de désintéressement pour le chrétien de la politique et de ses conséquences. Dieu m'a placé sous les lois de ce monde, sous l'autorité de ce monde, je dois donc y vivre ma citoyenneté terrestre. Et donc je me dois de prendre part, à mon niveau, et notamment en votant, à la vie de ce monde imparfait et relatif, et à tout ce qui s'y joue. Je ne peux pas me dédouaner du monde politique sous prétexte que j'appartiens à un autre royaume. Mais pour autant, et malgré ça, c'est ma citoyenneté céleste qui doit toujours prévaloir sur ces questions, puisque la primauté revient à Dieu. Et donc, en particulier dans mon positionnement, je dois toujours me placer, non pas comme un citoyen quelconque, entre guillemets, non pas au vu des opinions du plus grand nombre, de leurs espoirs ou de leurs craintes, non, mais toujours au vu de ce que la Bible donne comme priorité. Dit autrement, et pour résumer en une seule phrase, je dois m'impliquer à ma hauteur et avec sérieux dans les décisions de ce monde, mais je dois toujours le faire motivé par des perspectives bibliques. Et ainsi, je vais donc regarder avec attention et rigueur les différents programmes et les différentes propositions qui sont faites. Mais je vais faire ça dans un but précis, celui d'essayer de discerner ce qui sera le plus en accord avec ce qui semble prioritaire, non pas à moi-même, mais à Dieu. Mais là, je suis d'accord, on entre dans une réflexion pas évidente. Car c'est certain, on ne va pas trouver tout blanc ou tout noir dans un programme ou l'autre. Non, il va falloir encore une fois chercher les meilleurs compromis. Mais alors justement, du coup, question suivante. Dans cette recherche des meilleurs compromis, peut-on essayer de discerner quelques axes bibliques prioritaires qui seraient à même de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre? Et alors oui, je pense qu'à la lumière des Écritures, on peut faire ressortir au moins un axe prépondérant, au moins un point à privilégier. Ce point, c'est le souci de l'autre, le souci de notre prochain. Je crois qu'on ne peut pas lire les évangiles et la Bible de manière générale sans reconnaître la primeur à cette préoccupation. Vers quel axe vais-je diriger mes compromis ? Vers celui du souci de l'autre. Un axe très général encore, on est d'accord ? Alors essayons de l'affiner un petit peu. Et posons-nous notamment la question suivante. Qu'est-ce que cela voudra dire pour moi que de donner la primeur à mon prochain quand je vais choisir pour qui voter ? Et je vous propose deux réponses. D'abord, à mon sens, cela veut me dire qu'il me faudra sans doute apprendre à avoir un peu de recul sur les propositions des différents candidats et notamment sur les propositions qui me touchent directement. Si je veux me soucier de l'autre en premier, je vais devoir apprendre à ne pas mettre toujours mes propres intérêts au premier plan, mes propres intérêts comme préoccupation première et critère déterminant de mes choix. Mais il me semble que ce n'est pas si évident que ça de faire ainsi. Car reconnaissons-le, choisir en fonction de soi, de ce qui va avoir un impact sur soi, est, je pense, ce que fait naturellement tout le monde. Si je suis fonctionnaire, je vais d'abord regarder ce que tel candidat va proposer pour les fonctionnaires. Si je suis chef d'entreprise, je vais regarder ses mesures pour l'entreprise. Si je suis plus ou moins proche de la soixantaine, je vais peut-être regarder ce qu'il prévoit plus précisément pour le système des retraites, et ainsi de suite. Et alors, je ne dis pas que ces choses ne sont pas importantes et qu'il ne faut pas les prendre en considération. Non, mais par contre, je dis qu'elles ne devraient pas être notre principal, voire unique angle de vision. Parce que sinon, je risque d'aller voter juste pour celui qui me propose le plus d'avantages. Ou, plus souvent dans ce sens, pour celui qui ne touchera pas encore à mes avantages déjà existants. Mais on ne peut pas faire comme ça. Et la Bible, on le sait, ne nous invite jamais à penser d'abord à notre bien et à nos avantages, mais toujours au bien commun. Et même, et tout particulièrement même, nous devons surtout, et je l'ai souligné sur mon papier, nous devons surtout penser au bien des plus faibles, ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Oui, c'est à eux qu'il nous faudrait penser en premier lieu quand nous mettrons le nom d'un candidat dans l'urne. Parce que ça, c'est une préoccupation biblique. Une préoccupation que devrait avoir celui qui veut suivre ce Jésus, qui, lui, a justement toujours pris soin de ses laissés pour compte. À ce sujet, la déclaration du 2e Congrès protestant évangélique européen d'éthique, qui a eu lieu à Strasbourg en 2008, nous rappelle bien cette priorité, cette responsabilité forte même, qui se trouve devant celui qui confesse sa foi chrétienne. Ils nous disent, parce qu'elles n'ont pas les moyens de défendre elles-mêmes leur cause, nous devons accorder une attention particulière aux personnes vulnérables ou rendues vulnérables par l'âge, la maladie, le statut social, l'origine étrangère, etc. En un mot, nous devons soutenir le petit ou l'opprimé. C'est notre premier point, notre première réponse. Pas mes priorités, mais celles de mon prochain, et particulièrement donc mon prochain qui a moins de valeur dans ce monde. Et puis une deuxième réponse qui vient un petit peu recouper ce qu'on vient de dire. Elle nous est partagée par Luc Oleksandrovitch et Louis Schweitzer encore, qui ont justement essayé de relever pour nous ce qui devait être la priorité du chrétien quand il va voter. Et alors ils se sont interrogés. Serait-ce les questions économiques ? Non, disent-ils. Elles ont sans doute une vraie importance, mais ne peuvent pas être la priorité. Serait-ce la question de la nation et de l'identité, comme le pensent les populistes ? Non plus, on en a déjà parlé. Mais alors quoi ? Eh bien, affirment-ils, si on se place du côté de l'Évangile, le seul cœur de l'action chrétienne, la seule priorité, c'est l'amour du prochain. Et précise-t-il, quand on passe du niveau individuel au niveau collectif, le nom que prend l'amour du prochain, c'est la justice. Et voilà, je crois vraiment ici, le mot-clé qui doit être au cœur de nos choix et de nos votes. C'est celui de la justice. Chercher le candidat qui proposera, globalement, j'ai envie de dire, une plus grande justice pour tous, sans exception. Et c'est un critère, encore une fois, j'en ai conscience, assez vaste et général, qui pourra prendre probablement même plusieurs visages différents. Sans doute aussi n'aurons-nous pas toujours tous la même sensibilité sur cette question. Et c'est bien d'ailleurs pour cela qu'il serait impossible de donner des consignes de vote et qu'il n'y a pas de vote chrétien, c'est certain. Mais pourtant, même encore vaste et général, ce critère nous dit quand même quelque chose. Parce qu'il nous offre, me semble-t-il, l'angle d'attaque le plus biblique possible au moment où nous devrons sonder les propositions des différents candidats. Il nous recentre au cœur de ce climat de tension et de colère où on a vite fait de se laisser prendre par telle ou telle chose, par tel ou tel enjeu. Il nous recentre toujours sur l'essentiel. Et c'est donc, sans aucun doute, à travers ce filtre de la justice, à garder constamment devant nos yeux, que le citoyen chrétien est appelé à lire les différents programmes, puis à se prononcer dessus. C'est à travers ce filtre que nous devrons toujours essayer de considérer et d'apprécier ce qui nous est proposé, tant sur les questions économiques que les questions sociales, voire même les questions éthiques. À notre niveau, bien sûr, parce qu'on n'est pas des spécialistes, à notre niveau, et encore une fois, le plus globalement possible, pour ne pas qu'une seule préoccupation occulte tout le reste. À notre niveau, oui, mais en tout cas, toujours du mieux qu'on peut, et avec sérieux. Cela doit être notre axe prioritaire. Je le redis, repenser nos priorités personnelles d'abord et rechercher la justice pour chacun ensuite. Voilà ce qui doit être notre ligne directrice. Voici comment nous apprendrons le mieux possible à donner la priorité à l'autre au moment où nous déciderons de notre vote. Rappelons-nous, encore une fois, et pour terminer là-dessus, cette célèbre parole du prophète Michée concernant ce que Dieu attend de nous, sans aucune ambiguïté possible. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. J'ai conscience, bien sûr, que devant la complexité des enjeux, cela ne répond pas à toutes les questions, loin s'en faut. J'ai conscience que la perplexité risque de demeurer au moment où nous voterons. J'ai conscience que beaucoup d'entre nous ne se reconnaîtront que très peu dans le programme de l'un et encore moins dans celui de l'autre. Oui, sans doute. Mais tout au moins, au cœur de ces réflexions difficiles, il me semblait important, en ce qui nous concerne, de pouvoir toujours revenir encore et encore, comme on a essayé de le faire, à ce que nous dit la Bible. Bien sûr, la Bible n'est pas un programme politique, pas plus d'ailleurs qu'elle n'est un ouvrage scientifique ou une réflexion sociologique. Non. Mais la Bible est un livre qui révèle Dieu, qui révèle les actions de Dieu et qui révèle la volonté de Dieu. Et en ce sens, elle a donc forcément quelque chose à nous dire sur tout cela. À nous de nous y confronter authentiquement et d'y confronter aussi chacun de nos votes, afin de faire le choix qui nous semble le plus proche de ce que voudrait Dieu, ou peut-être tout simplement le moins loin. Aussi, ainsi, regardons les programmes et regardons les personnalités de ceux qui les soutiennent, ce n'est pas non plus négligeable. Toujours refusons le désengagement. Toujours refusons aussi la colère ou la peur qui ne pourront produire que du pire. Et essayons donc, autant que faire se peut, de peser les choses en fonction des orientations essentielles d'un regard chrétien sur la société et la politique. Un regard chrétien qui se décentre de ses propres intérêts pour rechercher en priorité ceux de Dieu et ceux des autres. Et enfin, et je conclurai par ça, prions. Prions à la fois pour nos gouvernants, comme nous y sommes appelés. Prions pour eux, au lieu de nous moquer d'eux, comme on le voit si souvent dans les émissions télé. Mais aussi prions tout simplement pour notre discernement. Je vous cite pour terminer ces quelques mots que l'apôtre Paul adresse à Timothée. Que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve. Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce sera une belle parole de conclusion. Amen.